France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Valérie Julien Grinzin.
Bonsoir Zoé Svez, merci de m'accueillir.
Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie et vous dirigez ce cabinet ASM Conseil. C'est à Lyon et vous êtes venu d'ailleurs de la capitale des Gaules jusqu'à nous pour évoquer un livre que vous co-signez avec le philosophe Yves Michaud qui s'appelle Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants. Alors on l'a dit, vous travaillez dans ce cabinet de conseil. Vous allez nous expliquer exactement de quoi évidemment ça parle. Vous êtes aussi chargé d'enseignement en master de philosophie et management à l'Université catholique de Lyon. Et vous intervenez aussi à l'Université Jean Moulin Lyon 3. La philosophie dans l'entreprise, vous, c'est votre métier,
oui.
Puisque c'est ce fameux cabinet de conseil. Et dans ce livre, vous réfléchissez, comme son nom l'indique, aux mutations, à ce que le numérique finalement fait à l'entreprise et à ses dirigeants. C'est à la fois des problématiques qui sont exposées, des dialogues que vous menez avec des universitaires, des chefs d'entreprise, des retours d'expérience. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, peut-être plus que jamais, l'entreprise a besoin de philosophie? Dure comme question. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle en a plus besoin, l'entreprise, aujourd'hui, avec cette mutation numérique?
Alors, je ne sais pas si l'entreprise a plus besoin de philosophie aujourd'hui, mais en tout cas, elle a plus conscience du besoin de prendre le recul pour la réflexion. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque justement, et c'est un des enjeux du livre, la mutation numérique a pour effet d'accélérer les rythmes, a pour effet également de rendre la proximité possible, avec une ubiguïté qui donne l'impression qu'on peut être connecté à tous, et donc que tout peut se gérer dans l'immédiateté.
Mmh. Mmh. Évidemment, c'est ça que vous pointez d'ailleurs en début, en constat de ce livre. Vous dites, voilà, nous sommes philosophes, mais nous ne pleurerons pas l'ancien temps, puisque là n'est pas l'objet. Mmh. Nous ne critiquons pas d'ailleurs cette révolution numérique, parce que c'est pas notre métier, c'est pas l'enjeu de ce livre. Nous allons essayer, vous le dites tous les deux, vous êtes tous les deux donc philosophes, et vous avez des liens avec l'entreprise, particulièrement vous essayez de comprendre finalement quels sont ces fameux enjeux, ce que ce numérique fait aux dirigeants et à notamment aux managers. Et vous expliquez bien d'ailleurs dans une première partie de votre livre comment le numérique aussi change la place de l'entreprise dans la société. Il y a une partie de votre livre qui s'appelle « Je crois quand l'extérieur n'est plus l'extérieur ». Vous allez peut-être me corriger. Qu'est-ce que ça change? Il y a cette injonction presque à ce que l'entreprise soit plus démocratique. Elle existe plus en fait dans l'imaginaire collectif.
Alors, la suppression des frontières qu'amène la mutation numérique, la suppression des frontières entre l'entreprise et la société vient du fait qu'on est en permanence connecté, et qu'il y a finalement un droit de regard permanent de la société civile sur l'entreprise, mais également que avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les mails qui arrivent, y compris dans un temps entre guillemets potentiellement privé, l'entreprise entre aussi dans la vie de chacun. Donc, du coup, c'est le vivre ensemble qui est questionné. Comment, avec cette évolution, l'entreprise peut prendre toute la mesure de ses responsabilités sur l'évolution de la société? C'est vraiment ce qu'on a voulu creuser au travers de ce livre. Peut-être pour précision, vous dites, bon, je connais l'entreprise, effectivement, en tant que conseil, depuis une trentaine d'années maintenant, et fondatrice du cabinet ASM Conseil, qui est spécialisée dans l'accompagnement des transformations. On travaille avec des équipes dirigeantes et avec les managers des entreprises pour identifier quel va être l'impact des évolutions de l'entreprise,
donc quelle qu'elle soit.
La mutation numérique en est une, mais il y en a d'autres, plein d'autres. On va parler de ça ce soir. Quel est l'impact sur le sens de l'engagement pour chacun? C'est vraiment la question centrale. Comment garder le sens de son investissement dans le travail? Comment créer des communautés professionnelles qui permettent aux personnes de se développer et qui permettent également aux personnes de contribuer à un objet qu'elles considèrent comme un objet favorable à la société.
C'est qu'à présent, excusez-moi, parce que vous le dites d'ailleurs, il faut que l'entreprise doit clarifier sa raison d'être dans ce nouveau monde, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus d'une certaine manière avoir un but gratuit qui est le sien propre, le seul d'ailleurs finalement. Il faut que cette raison d'être, d'une certaine manière, ait ou pas des conséquences, des résonances avec les questions sociales. Et vous le dites, c'est aussi d'avoir un, vous l'avez dit, d'être de créer des liens et d'être engagé. Il y a une partie assez intéressante où vous pointez du doigt une chose qui est assez évidente mais qui est complexe, c'est qu'à la fois le fait d'être de plus en plus connecté nous rend de plus en plus autonomes et en même temps nous isole et nous rend plus fragiles. Ça, c'est vrai à quel point, vous le notez à quel point dans l'entreprise, ça justement?
On le note dans le fait qu'il y a de plus en plus un management qui se fait par les nombres et par les données. Mmh. Hein, avec un risque, je dis bien un risque, parce que la preuve en est, c'est la preuve qu'on a voulu faire. Hein. On est à la fois humaniste et pragmatique et optimiste, vigilant, hein, on le dit dès l'introduction. Il y a des entreprises qui trouvent l'équilibre entre cette mutation qui est une mutation technologique, qui permet de gérer des données, qui permet de connecter les personnes à distance, mais également la prise en compte de l'exigence de reconnaissance de la contribution de chacun, l'exigence de personnalisation de la coopération.
Et c'est en plus une urgence, et ça vous le dites assez quand même dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a aussi, puisqu'on parle de dirigeants et même de managers, et d'ailleurs vous le dites vous-même au moment où vous animez l'un de ces entretiens qui sont retranscrits dans ce livre, on est sur des managers aujourd'hui ou des dirigeants qui ont en moyenne entre 45 et 70 ans et qui doivent attirer les fameux millénials qui ont plutôt moins de 30 ans. Mm-hmm. Et là, au-delà même de la maîtrise des outils, ça on en parle souvent dans Softpower, il y a une question de culture et de résonance entre les buts de chacun. Qu'est-ce qui doit être le nouveau manager d'aujourd'hui, selon vous? Qu'est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce qu'il doit chercher pour justement qu'il existe ce lien entre un manager aussi de cette génération et qui vient d'un monde plus vertical et un plus jeune qui n'a pas nécessairement non plus les clés de ce nouveau monde?
Exactement. On le décrit, je pense qu'il faut parler de digital leadership. Dans le digital leadership, une des caractéristiques, c'est l'horizontalisation des modes de coopération. Hein, vous parlez de verticalisation, c'est l'ancienne culture. Aujourd'hui, il y a un accès à l'information, il y a un accès aux données. Tout collaborateur peut être informé de ce qui se passe dans l'entreprise via des médias extérieurs. Dans ce cadre-là, la co-construction est absolument essentielle. Hein, pouvoir créer les conditions d'une co-construction autour d'une raison d'être commune, autour d'une finalité qui permet à chacun de contribuer, ce sont deux caractéristiques très importantes pour le digital leader. La troisième, c'est cette capacité de prise de recul. Hein, parce que malgré tout, il faut... un leader doit apporter quelque chose à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une possibilité de donner du sens à la multitude d'informations. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la recherche de consistance culturelle. Vous avez abordé ce changement de culture. La recherche de consistance culturelle, c'est quoi? C'est s'assurer que partout dans l'entreprise, les personnes puissent faire le lien entre ce qu'elles ont à faire, la manière dont elles le font, et la fameuse raison d'être de l'entreprise.
Sa finalité et sa raison d'être. Et ça, effectivement, ça fait partie des... La question du temps est une des questions que vous abordez, disons, frontalement. Et vous citez d'ailleurs plusieurs exemples de prise de décision, prise, disons, à la précipitation, parfois, par certains leaders. C'est-à-dire qu'en réalité, on dispose parfois de trop d'informations. On ne voit pas celle qui sera capitale. Ou on est, disons, poussé, puisqu'on est leader, à prendre une décision au vu de la quantité d'informations dont on dispose. Quel est le conseil majeur, donc, de ce point de vue-là?
Le conseil majeur, avoir conscience de cette accélération et donc volontairement créer à l'intérieur de son agenda de dirigeant, très simplement, je dirais, mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à faire, du temps. Du temps pour la réflexion, du temps pour les discussions réelles, concrètes, en face à face avec les acteurs de l'entreprise. Et préserver des espaces de délibération à l'intérieur d'entreprise sur la manière dont la collaboration peut continuer à reconnaître les personnes et non pas se passer des personnes sous l'effet des algorithmes.
Très belle partie de votre livre sur la collaboration et évidemment la coopération. Et d'ailleurs, vous le dites, apprendre à dire parfois je ne sais pas ou je ne sais pas encore. Merci beaucoup Valérie Julien Grinzin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la dirigeante, vous êtes la fondatrice et la dirigeante du cabinet ASM Conseil à Lyon. Vous êtes philosophe et vous co-signez ce livre Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants avec Yves Michaud. C'est aux éditions Odile Jacob.
Merci.